Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Amis auditeurs, nous commençons aujourd'hui un nouveau livre. Il s'agit de Arsène Lupin, L'aiguille creuse. Son auteur, Maurice Leblanc. Et c'est édité dans le livre de poche. Un très bref résumé que je vais lire sur la quatrième de couverture du livre. À 40 ou 50 mètres de cette arche imposante qu'on appelle la porte d'aval et qui s'élance du haut de la falaise, ainsi que la branche colossale d'un arbre pour prendre racine dans les rocs sous-marins, s'érige un cône calcaire démesuré. Et ce cône n'est qu'un bonnet d'écorce pointue posé sur du vide. Révélation prodigieuse. Après Lupin, voilà que Botrelet découvrait le mot de la grande énigme qui a plané sur plus de 20 siècles. Mot d'une importance suprême pour celui qui le possédait jadis, aux lointaines époques où des hordes de barbares parcouraient le vieux monde. Mot magique qui ouvre l'antre cyclopéen à des tribus entières fuyant devant l'ennemi. Mot mystérieux qui garde la porte de l'asile le plus inviolable. Mot prestigieux qui donne le pouvoir et assure la prépondérance. Nous commençons directement notre lecture au chapitre 1. Arsène Lupin, l'aiguille creuse, de Maurice Leblanc. Le coup de feu. Raymonde prêta l'oreille. De nouveau et par deux fois, le bruit se fit entendre, assez net pour qu'on pût le détacher de tous les bruits confus qui formaient le grand silence nocturne, mais si faible qu'elle n'aurait su dire s'il était proche ou lointain. Qui se produisait entre les murs du vaste château ou dehors parmi les retraites ténébreuses du parc. Doucement, elle se leva. Sa fenêtre était entr'ouverte. Elle en écarta les battants. La clarté de la lune reposait sur un calme paysage de pelouses et de bosquets où les ruines éparses de l'ancienne abbaye se découpaient en silhouettes tragiques. Colonnes tronquées, ogives incomplètes, ébauches de portiques et lambeaux d'arc-boutants. Un peu d'air flottait à la surface des choses, glissant à travers les rameaux nus et immobiles des arbres, mais agitant les petites feuilles naissantes des massifs. Et soudain, le même bruit. C'était vers sa gauche et au-dessous de l'étage qu'elle habitait, par conséquent, dans les salons qui occupaient l'aile occidentale du château. Bien que vaillante et forte, la jeune fille sentit l'angoisse de la peur. Elle passa ses vêtements de nuit et prit les allumettes. « Raymonde ! Raymonde ! » Une voix faible comme un souffle l'appelait de la chambre voisine dont la porte n'avait pas été fermée. Elle s'y rendait à tâtons lorsque Suzanne, sa cousine, sortit de cette chambre et s'effondra dans ses bras. « Raymonde, c'est toi ? Mais tu as entendu ?»« Oui, tu ne dors donc pas ?»« Je suppose que c'est le chien qui m'a réveillée il y a longtemps, mais il n'aboie plus. »« Quelle heure est-il ? » »« 4 heures environ. » »« Écoute, on marche dans le salon. » »«
Il n'y a pas de danger. Ton père est là, Suzanne. »
« Mais il y a du danger pour lui. Il couche à côté du petit salon. »«
Monsieur Daval est là aussi,
à l'autre bout du château. Comment veux-tu qu'il entende ?»
Elles hésitaient, ne sachant à quoi se résoudre. Appeler ? Crier au secours ? Elles n'osaient tellement le bruit même de leur voix leur semblait redoutable. Mais Suzanne, qui s'était approchée de la fenêtre
étouffa un cri. « Regarde, un homme près du bassin !»
Un homme, en effet, s'éloignait d'un pas rapide. Il portait sous le bras un objet d'assez grande dimension dont elles ne purent discerner la nature et qui, en ballottant contre sa jambe, contrariait sa marche. Elles le virent qui passait près de l'ancienne chapelle et qui se dirigeait vers une petite porte dont le mur était percé. Cette porte devait être ouverte car l'homme disparut subitement et elles n'entendirent point le grincement habituel des gonds.
« Il venait du salon !» murmura Suzanne.
« Non, l'escalier et le vestibule l'auraient conduit plus à gauche, à moins que... »
Une même idée les secoua. Elles se penchèrent. Au-dessous d'elles, une échelle était dressée contre la façade et s'appuyait au premier étage. Une lueur éclairait le balcon de pierre. Et... un autre homme qui portait aussi quelque chose enjamba ce balcon, se laissa glisser le long de l'échelle et s'enfuit par le même chemin. Suzanne, épouvantée, sans force, tomba à genoux balbutiant « Appelons, appelons au secours !»« Qui viendrait, ton père ? Et s'il y a d'autres hommes et qu'on se jette sur lui ? Oh, on pourrait avertir les domestiques ! Ta sonnette communique avec leur étage.
Oui, oui, peut-être, c'est une idée, pourvu qu'ils arrivent à temps.
Raymonde chercha près de son lit la sonnerie électrique et la pressa du doigt. Un timbre en haut vibra et elles eurent l'impression que d'en bas, on avait dû en percevoir le son distinct. Elles attendirent. Le silence devenait effrayant. Et la brise elle-même n'agitait plus les feuilles des arbustes.
« j'ai peur !» répétait Suzanne.
Et tout à coup, dans la nuit profonde, au-dessous d'elle, le bruit d'une lutte, un fracas de meubles bousculés, des exclamations, puis horrible, sinistre, un gémissement rauque, le râle d'un être qu'on égorge. Raymonde bondit vers la porte. Suzanne s'accrocha désespérément à son bras. « Non !» « Ne me laisse pas, j'ai peur !» Raymonde la poussa et s'élança dans le corridor, bientôt suivie de Suzanne qui chancelait d'un mur à l'autre en poussant des cris. Elle parvint à l'escalier, dégringola de marche en marche, se précipita sur la grande porte du salon et s'arrêta net, clouée au seuil, tandis que Suzanne s'affaissait à ses côtés. En face d'elle, à trois pas, il y avait un homme qui tenait à la main une lanterne. D'un geste, il la dirigea sur les deux jeunes filles, les aveuglant de lumière, regarda longuement leur visage, puis, sans se presser, avec les mouvements les plus calmes du monde, il prit sa casquette, ramassa un chiffon de papier et deux brins de paille, effaça des traces sur le tapis, s'approcha du balcon, se retourna vers les jeunes filles, les salua profondément et disparut. La première, Suzanne courut au petit boudoir qui séparait le grand salon de la chambre de son père. Mais dès l'entrée, un spectacle affreux la terrifia. À la lueur oblique de la lune, on apercevait à terre deux corps inanimés, couchés l'un près de l'autre.
« Père ! Père, c'est toi ? Qu'est-ce que tu as ? » s'écria-t-elle affolée, penchée sur l'un d'eux.
Au bout d'un moment, le comte de Gesvres remua. D'une voix brisée, il dit
« Ne crains rien, je ne suis pas blessé. Et Daval, est-ce qu'il vit ? Le couteau !»
À ce moment, deux domestiques arrivaient avec des bougies. Raymonde se jeta devant l'autre corps et reconnut Jean Daval, le secrétaire et l'homme de confiance du comte. Sa figure avait déjà la pâleur de la mort. Alors, elle se leva, revint au salon, prit au milieu d'une panoplie accrochée au mur un fusil qu'elle savait charger et passa sur le balcon.
Il n'y avait certes pas plus de 50 à 60 secondes que l'individu avait mis le pied sur la première barre de l'échelle. Il ne pouvait donc être bien loin d'ici, d'autant plus qu'il avait eu la précaution de déplacer l'échelle pour qu'on ne pût pas s'en servir. Elle l'aperçut bientôt en effet qui longeait les débris de l'ancienne clôture. Elle épaula, visa tranquillement et fit feu. L'homme tomba. « ça y est !» proféra l'un des domestiques. « On le tient, celui-là, j'y vais !»« Non, Victor !» Il se relève, descendez l'escalier et filez sur la petite porte. Il ne peut se sauver que par là. » Victor se hâta, mais avant même qu'il ne fût dans le parc, l'homme était retombé. Raymonde appela l'autre domestique. « Albert, vous le voyez là-bas, près de la grande arcade ?»«
Oui, il rampe dans l'herbe. Il est fichu.
Surveillez-le d'ici. » Pas moyen qu'il échappe. À droite des ruines, c'est la pelouse découverte. Et Victor garde la porte à gauche, dit-elle en reprenant son fusil. N'y allez pas, mademoiselle.
Si, si, dit-elle, l'accent résolu, les gestes saccadés. Laissez-moi, il me reste une cartouche. S'il bouge.
Elle sourit. Un instant après, Albert la vit qui se dirigeait vers les ruines. Il lui cria de la fenêtre.
« Il s'est traîné derrière l'arcade. Je ne le vois plus. Attention, mademoiselle !»
Raymonde fit le tour de l'ancien cloître pour couper toute retraite à l'homme. Et bientôt, Albert la perdit de vue. Au bout de quelques minutes, ne la revoyant pas, il s'inquiéta. Et tout en surveillant les ruines, au lieu de descendre par l'escalier, il s'efforça d'atteindre l'échelle. Quand il y eut réussi, il descendit rapidement et courut droit à l'arcade près de laquelle l'homme lui était apparu pour la dernière fois. 30 pas plus loin, il trouva Raymonde qui cherchait Victor. « Eh bien ? » fit-il. « Impossible de mettre la main dessus, » dit Victor.
« La petite porte. »
« J'en viens, voilà la clé. » Pourtant, il faut bien... Oh, son affaire est sûre. D'ici 10 minutes, il est à nous, le bandit.
Le fermier et son fils, réveillés par le coup de fusil, arrivaient de la ferme, dont les bâtiments s'élevaient assez loin sur la droite, mais dans l'enceinte des murs. Ils n'avaient rencontré personne.
Parbleu, non, fit Albert. Le gredin n'a pas pu quitter les ruines. On le dénichera au fond de quelques trous.
Ils organisèrent une battue méthodique, fouillant chaque buisson, écartant les lourdes traînes de lierre enroulées autour du fût des colonnes. On s'assura que la chapelle était bien fermée et qu'aucun des vitraux n'était brisé. On contourna le cloître, on visita tous les coins et recoins, les recherches furent vaines. Une seule découverte, à l'endroit même où l'homme s'était abattu, blessé par Raymonde, on ramassa une casquette de chauffeur en cuir fauve. Sauf cela, rien. À 6 heures du matin, la gendarmerie d'Ouville-la-Rivière était prévenue et se rendait sur les lieux. Après avoir envoyé par express au parquet de Dieppe une petite note relatant les circonstances du crime, la capture imminente du principal coupable. La découverte de son couvre-chef et du poignard avec lequel il avait perpétré son forfait. À 10 heures, 2 autos descendaient la pente légère qui aboutit au château. L'une, vénérable calèche, contenait le substitut du procureur et le juge d'instruction accompagné de son greffier. Dans l'autre, modeste cabriolet, avaient pris place 2 jeunes reporters représentant le journal de Rouen et une grande feuille parisienne. Le vieux château apparut. Jadis demeure abbatiale des prieurs
d'Embrumésie, mutilé par la Révolution, restauré par le comte de Gesvres, auquel il appartient depuis 20 ans. Il comprend un corps de logis que surmonte un pinacle où veille une horloge et deux ailes, dont chacune était enveloppée d'un perron à balustres de pierre. Par-dessus les murs du parc et au-delà du plateau que soutiennent les hautes falaises normandes, on aperçoit, entre les villages de Sainte-Marguerite et de Varangeville, la ligne bleue de la mer. Là vivait le comte de Gesvres avec sa fille Suzanne, jolie et frêle créature aux cheveux blonds, et sa nièce Raymonde de Saint-Véran, qu'il avait recueillie 2 ans auparavant, lorsque la mort simultanée de son père et de sa mère laissa Raymonde orpheline. L'existence était calme et régulière au château. Quelques voisins y venaient de temps à autre. L'été, le comte menait les 2 jeunes filles presque chaque jour à Dieppe. Lui, c'était un homme de taille élevée, de belle figure grave, aux cheveux grisonnants. Très riche, il gérait lui-même sa fortune et surveillait ses propriétés avec l'aide de son secrétaire, Jean Daval. Dès l'entrée, le juge d'instruction recueillit les premières constatations du brigadier de gendarmerie Quevillon. La capture du coupable, toujours imminente d'ailleurs, n'était pas encore effectuée, mais on tenait toutes les issues du parc. Une évasion était impossible. La petite troupe traversa ensuite la salle capitulaire et le réfectoire situé au rez-de-chaussée et gagna le premier étage. Aussitôt, l'ordre parfait du salon fut remarqué. Pas un meuble, pas un bibelot qui ne parussent occuper leur place habituelle, et pas un vide parmi ces meubles et ces bibelots. À droite et à gauche étaient suspendues de magnifiques tapisseries flamandes à personnages. Au fond, sur les panneaux, 4 belles toiles, dans leur cadre du temps, représentaient des scènes mythologiques. C'étaient les célèbres tableaux de Rubens, légués au comte de Gesvres, ainsi que les tapisseries de Flandre par son oncle maternel, le marquis de Bodadilla, grand d'Espagne. Monsieur Filleul, le juge d'instruction, observa : si le vol fut le mobile du crime, ce salon, en tout cas, n'en a pas été l'objet. Qui sait ? Fit le substitut, qui parlait peu, mais toujours dans un sens contraire aux opinions du juge. « Voyons, cher monsieur, le premier soin d'un voleur eût été de déménager ses tapisseries et ses tableaux, dont la renommée est universelle. »« Peut-être n'en a-t-on pas eu le loisir ?»« C'est ce que nous allons savoir. » À ce moment, le comte de Gesvres entra, suivi du médecin. Le comte, qui ne semblait pas se ressentir de l'agression dont il avait été victime, souhaita la bienvenue aux 2 magistrats. Puis il ouvrit la porte du boudoir. La pièce, où personne n'avait pénétré depuis le crime sauf le docteur, offrait à l'encontre du salon le plus grand désordre. 2 chaises étaient renversées, une des tables démolies et plusieurs autres objets. Une pendule de voyage, un classeur, une boîte de papier à lettres gisaient par terre. Et il y avait du sang à certaines des feuilles blanches éparpillées. Le médecin écarta le drap qui cachait le cadavre. Jean Daval, habillé de ses vêtements ordinaires de velours et chaussé de bottines ferrées, était étendu sur le dos, un de ses bras replié sous lui. On avait ouvert sa chemise et l'on apercevait une large blessure qui trouait sa poitrine. « La mort a dû être instantanée, déclara le docteur. Un coup de couteau a suffi. » « C'est sans doute, dit le juge, le couteau que j'ai vu sur la cheminée du salon, près d'une casquette de cuir. » « Oui, certifia le comte de Gesvres, le couteau fut ramassé ici même. Il provient de la panoplie du salon d'où ma nièce, mademoiselle de Saint-Véran,
arracha le fusil. Quant à la casquette de chauffeur, c'est évidemment celle du meurtrier. Monsieur Filleul étudia encore certains détails de la pièce, adressa quelques questions au docteur, puis pria Monsieur de Gesvres de lui faire le récit de ce qu'il avait vu et de ce qu'il savait. Voici, en quelques termes, le comte qui va s'exprimer.
C'est Jean Daval qui m'a réveillée. Je dormais mal, d'ailleurs, avec des éclairs de lucidité où j'avais l'impression d'entendre des pas, quand tout à coup, en ouvrant les yeux, je l'aperçus au pied de mon lit, sa bougie à la main, et tout habillé, comme il l'est actuellement, car il travaillait souvent très tard dans la nuit. Il semblait fort agité, et il me dit à voix basse, « Il y a des gens dans le salon !» En effet, je perçus du bruit. Je me levai et j'entrebâillai doucement la porte de ce boudoir. Au même instant, cette autre porte qui donne sur le grand salon était poussée et un homme apparaissait qui bondit sur moi et m'étourdit d'un coup de poing à la tempe. Je vous raconte cela sans aucun détail, monsieur le juge d'instruction, pour cette raison que je ne me souviens que des faits principaux et que ces faits se sont passés avec une extraordinaire rapidité. Et après ? Après ? Je ne sais plus. Quand je suis revenue à moi, Daval était étendu, mortellement frappé. À première vue, vous ne soupçonnez personne ? Personne ? Vous n'avez aucun ennemi ? Je ne m'en connais pas. Monsieur Daval n'en avait pas non plus. Daval ? Un ennemi ? C'était la meilleure créature qui fut. Depuis 20 ans que Jean Daval était mon secrétaire, et je puis le dire mon confident, je n'ai jamais vu autour de lui que des sympathies et des amitiés. Pourtant, il y a eu escalade, il y a eu meurtre, il faut bien un motif à tout cela. Le motif ? Mais c'est le vol, purement et simplement. On vous a donc volé quelque chose ? Rien. Alors ? Alors, si l'on n'a rien volé, et s'il ne manque rien, on a du moins emporté quelque chose. Quoi ? Je l'ignore, mais ma fille et ma nièce vous diront, en toute certitude, qu'elles ont vu successivement 2 hommes traverser le parc et que ces 2 hommes portaient d'assez volumineux fardeaux. Ces demoiselles ont rêvé, je serais tentée de le croire, car depuis ce matin, je m'épuise en recherches et en suppositions. Mais il est aisé de les interroger. On fit venir les 2 cousines dans le grand salon. Suzanne, toute pâle et tremblante encore, pouvait à peine parler. Raymonde, plus énergique et plus virile, plus belle aussi avec l'éclat doré de ses yeux bruns, raconta les événements de la nuit et la part qu'elle y avait prise. « De sorte, mademoiselle, que votre déposition est catégorique. Absolument, les 2 hommes qui traversaient le parc emportaient des objets. Et le 3e, il est parti d'ici les mains vides. Sauriez-vous nous donner son signalement ? Il n'a cessé de nous éblouir avec sa lanterne. Tout au plus, dirais-je, qu'il est grand et lourd d'aspect. Est-ce ainsi qu'il vous est apparu, mademoiselle ? Demanda le juge à Suzanne de Gesvres. Oui, ou plutôt non, fit Suzanne en réfléchissant. Moi, je l'ai vu de taille moyenne et mince. Monsieur Filleul sourit. Habitué aux divergences d'opinion et de vision chez les témoins d'un même fait. Nous voici donc en présence d'une part d'un individu, celui du salon, qui est à la fois grand et petit, gros et mince, et de l'autre, de 2 individus, ceux du parc, que l'on accuse d'avoir enlevé de ce salon des objets qui s'y trouvent encore. Monsieur Filleul était un juge de l'école ironiste, comme il le disait lui-même.
C'était aussi un juge qui ne détestait point la galerie, ni les occasions de montrer au public son savoir-faire, ainsi que l'attestait le nombre croissant des personnes qui se pressaient dans le salon. Aux journalistes s'étaient joints le fermier et son fils, le jardinier et sa femme, puis le personnel du château, puis les deux chauffeurs qui avaient amené les voitures de Dieppe. Il reprit. Il s'agirait aussi de se mettre d'accord sur la façon dont a disparu ce troisième personnage. Vous avez tiré avec ce fusil, mademoiselle, et de cette fenêtre. Oui, l'homme atteignait la pierre tombale presque enfouie sous les ronces à gauche du cloître. Mais il s'est relevé. À moitié seulement. Victor est aussitôt descendu pour garder la petite porte. Et je l'ai suivi, laissant ici en observation notre domestique Albert. Albert, à son tour, fit sa déposition et le juge conclut. Par conséquent, d'après vous, le blessé n'a pu s'enfuir par la gauche, puisque votre camarade surveillait la porte, ni par la droite, puisque vous l'auriez vu traverser la pelouse. Donc, logiquement, il est, à l'heure actuelle, dans l'espace relativement restreint que nous avons sous les yeux. C'est ma conviction. Est-ce la vôtre, mademoiselle ? Oui. Et la mienne aussi, fit Victor. Le substitut du procureur s'écria d'un ton narquois. Le champ des investigations est étroit. Il n'y a qu'à continuer les recherches commencées depuis 4 heures. Peut-être serons-nous plus heureux. Monsieur Filleul prit sur la cheminée la casquette en cuir, l'examina, et appelant le brigadier de gendarmerie, lui dit à part. « Brigadier, envoyez immédiatement un de vos hommes à Dieppe chez le chapelier Maigret, et que Monsieur Maigret nous dise, si possible, à qui fut vendue cette casquette. Le champ des investigations, selon le mot du substitut, se limitait à l'espace compris entre le château, la pelouse de droite et l'angle formé par le mur de gauche et par le mur opposé au château, c'est-à-dire un quadrilatère d'environ 100 mètres de côté où surgissaient çà et là les ruines d'Ambrumésy, le monastère si célèbre au Moyen-Âge. De suite, dans l'herbe foulée, on nota le passage du fugitif. À deux endroits, des traces de sang noirci, presque desséchées, furent observées. Après le tournant de l'arcade qui marquait l'extrémité du cloître, il n'y avait plus rien. La nature du sol, tapissée d'aiguilles de pin, ne se prêtant plus à l'empreinte d'un corps. Mais alors, comment le blessé aurait-il pu échapper au regard de la jeune fille, de Victor ? Et d'Albert. Quelques fourrés que les domestiques et les gendarmes avaient battus, quelques pierres tombales sous lesquelles on avait exploré, et c'était tout. Le juge d'instruction se fit ouvrir par le jardinier qui en avait la clé, la chapelle Dieu, véritable bijou de sculpture que le temps et les révolutions avaient respecté,
et qui fut toujours considéré, avec les fines ciselures de son porche et le menu peuple de ses statuettes, comme une des merveilles du style gothique normand. La chapelle, très simple à l'intérieur, sans autre ornement que son autel de marbre, n'offrait aucun refuge. D'ailleurs, il eût fallu s'y introduire. Par quel moyen ? L'inspection aboutissait à la petite porte qui servait d'entrée aux visiteurs des ruines. Elle donnait sur un chemin creux resserré entre l'enceinte et un bois taillis où se voyaient des carrières abandonnées. Monsieur Fiel se pencha. La poussière du chemin présentait des marques de pneumatiques à bandages antidérapants. De fait, Raymond et Victor avaient cru entendre, après le coup de fusil, le halètement d'une auto. Le juge d'instruction insinua « Le blessé aura rejoint ses complices !»« Impossible !» s'écria Victor. « J'étais là, alors que Mademoiselle et Albert l'apercevaient encore. » « Enfin, quoi ? Il faut pourtant bien qu'il soit quelque part, dehors ou dedans. Nous n'avons pas le choix. »« Il est ici !» dirent les domestiques avec obstination. Le juge haussa les épaules et s'en retourna vers le château assez morose. Décidément, l'affaire s'annonçait mal. Un vol où rien n'était volé, un prisonnier invisible, il n'y avait pas de quoi se réjouir. Il était tard. Monsieur de Gesvres pria les magistrats à déjeuner ainsi que les deux journalistes. On mangea silencieusement, puis Monsieur Filleul retourna dans le salon où il interrogea les domestiques. Mais le trot d'un cheval résonna du côté de la cour et, un instant après, le gendarme que l'on avait envoyé à Dieppe entra. « Eh bien, vous avez vu le chapelier ?» s'écria le juge, impatient d'obtenir un renseignement. « La casquette a été vendue à un chauffeur. »«
Un chauffeur ?»«
Oui, un chauffeur qui s'est arrêté avec sa voiture devant le magasin et qui a demandé si on pouvait lui fournir, pour l'un de ses clients, une casquette de chauffeur en cuir jaune. Il restait celle-là. Il a payé sans même s'occuper de la pointure et il est parti. Il était très pressé.
Quelle sorte de voiture ?
Un coupé à quatre places.
Et quel jour était-ce ?
Quel jour ?
Mais ce matin.
Ce matin ? Qu'est-ce que vous me chantez là ?
La casquette a été achetée ce matin.
Mais c'est impossible, puisqu'elle a été trouvée cette nuit dans le parc. Pour cela, il fallait qu'elle y fût, et par conséquent, qu'elle eût été achetée auparavant.
Ce matin, le chapelier me l'a dit.
Il y eut un moment d'effarement. Le juge d'instruction, stupéfait, tâchait de comprendre. Soudain, il sursauta, frappé d'un coup de lumière.
Qu'on amène le chauffeur qui nous a conduits ce matin.
Le brigadier de gendarmerie et son subordonné coururent en hâte vers les écuries. Au bout de quelques minutes, le brigadier revenait seul.
Le chauffeur.
Il s'est fait servir à la cuisine, il a déjeuné et puis...
Et puis ?
Il a filé.
Avec sa voiture ?
Non. Sous prétexte d'aller voir un de ses parents à Ouville, il a emprunté la bicyclette du palefrenier. Voici son chapeau et son paletot.
Mais il n'est pas parti tête nue.
Il a tiré de sa poche une casquette et il l'a mise.
Une casquette ?
Oui, en cuir jaune, paraît-il.
En cuir jaune ?
Mais non, puisque la voilà.
En effet, monsieur le juge d'instruction,
mais la sienne est pareille. Le substitut eut un léger ricanement.
Très drôle, très amusant. Il y a deux casquettes. L'une qui était la véritable et qui constituait notre seule pièce à conviction est partie sur la tête du pseudo-chauffeur.
L'autre, la fausse, vous l'avez entre les mains.
Ah, le brave homme nous a proprement roulés.
Qu'on le rattrape, qu'on le rattrape !» cria M. Filleul. « Brigadier Quevillon, deux de vos hommes à cheval et au galop !»«
Il est loin !» dit le substitut.
« Si loin qu'il soit, il faudra bien qu'on mette la main sur lui !»«
Je l'espère, mais je crois, monsieur le juge d'instruction, que nos efforts doivent surtout se concentrer ici. Veuillez lire ce papier que je viens de trouver dans les poches du manteau. »
« Quel manteau ?»«
Celui du chauffeur. » Et le substitut du procureur tendit à M. Filleul un papier plié en quatre où se lisaient ces quelques mots tracés au crayon d'une écriture un peu vulgaire.
« Malheur à la demoiselle si elle a tué le patron. »
L'incident causa une certaine émotion. « À bon entendeur, salut !» « Nous sommes avertis !» murmura le substitut.
« Monsieur le comte, reprit le juge d'instruction, je vous supplie de ne pas vous inquiéter. Vous non plus, mesdemoiselles. Cette menace n'a aucune importance puisque la justice est ici sur les lieux. Toutes les précautions seront prises. Je réponds de votre sécurité. Quant à vous, messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers les deux reporters, « je compte sur votre discrétion. C'est grâce à ma complaisance que vous avez assisté à cette enquête et ce serait mal me récompenser. » Il s'interrompit. Comme si une idée le frappait, regarda les deux jeunes gens tour à tour et s'approcha de l'un d'eux. « À quel journal êtes-vous attaché ?
Au journal de Rouen ?
Vous avez une carte d'identité ?
« La voici. » Le document était en règle. Il n'y avait rien à dire. Monsieur Filleul interpella l'autre reporter.
« Et vous, monsieur ?»«
Moi ?»«
Oui, vous.
Je vous demande à quelle rédaction vous appartenez. »«
Mon Dieu, monsieur le juge d'instruction, j'écris dans plusieurs journaux. »«
Votre carte d'identité ?»«
Je n'en ai pas. »«
Ah ! Et comment se fait-il ? »
« Pour qu'un journal vous délivre une carte, il faut y écrire de façon suivie. »«
Eh bien ?»«
Eh bien, je ne suis que collaborateur occasionnel. J'envoie de droite et de gauche des articles qui sont publiés ou refusés selon les circonstances. »«
En ce cas, votre nom, vos papiers. »«
Mon nom ne vous apprendrait rien.
Quant à mes papiers, je n'en ai pas. »
« Vous n'avez pas un papier quelconque faisant foi de votre profession ?»«
Je n'ai pas de profession. »«
Mais enfin, monsieur, s'écria le juge avec une certaine brusquerie, vous ne prétendez cependant pas garder l'incognito après vous être introduit ici par ruse et avoir surpris les secrets de la justice ?»«
Je vous prierai de remarquer, monsieur le juge d'instruction, que vous ne m'avez rien demandé quand je suis venue et que par conséquent, je n'avais rien à dire. En outre, il ne m'a pas semblé que l'enquête fût secrète puisque tout le monde y assistait, même un des coupables.
Pour tenter de résumer ce premier épisode, nous avons dans un château un meurtre. Jean Daval, secrétaire du comte de Gèdre, a été tué. Le comte lui-même durement choqué. Suzanne et Raymonde ont entendu des bruits divers. Elles ont vu des hommes emportant des objets volumineux vers l'extérieur. Raymonde a même tiré sur le fuyard. En gros, on a volé des objets, mais il ne manque rien. Lorsque la police appelée fait son enquête, les témoignages divergent. Un des chauffeurs, supposé être encore présent, est déjà parti sans rien dire. Une histoire de casquette jaune. Et enfin, il y a deux journalistes dont l'un d'entre eux s'avère n'être que lycéen, élève de rhétorique au lycée Janson de La Porte. Amis auditeurs, c'est avec toutes ces questions que nous retrouverons pour commencer notre prochaine lecture du livre Arsène Lupin, l'aiguille creuse, écrit par Maurice Leblanc. Compliqué, dites-vous ? Alors, vous pouvez écouter ou réécouter l'émission « Je lis pour vous » en direct sur Radio Alliance Plus 103.2 FM et DAB+, les mardis et mercredis à 21h30 ou en rediffusion les lundis et mardis à 6h. À moins que vous ne préfériez le podcast sur le site de la radio www.radioallianceplus.fr. Émission « Je lis pour vous ». Et à bientôt, chers auditeurs.